Classique 21. Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
In time à l'instant, Huey Lewis and the News, et bien entendu, voilà, c'est pour marquer la séquence qu'on va entamer ici pour cette troisième partie de Soundtrack, Back in Time, c'est le cas de le dire. On remonte le temps de 40 ans, mais on est un petit peu perdu dans les horaires aujourd'hui, puisque en plus on a changé d'heure, et on est le 26 octobre, c'est une date très symbolique pour cette séquence que l'on partage avec Laurent Riepy. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Laurent qui est revenu d'Angleterre.
Ça, c'est bien. Effectivement, c'était
c'était vraiment magique avec un super groupe et des super chouettes souvenirs plein les yeux.
Alors ici, bah évidemment, donc je viens d'en parler hein, en quelques mots, mais donc c'est vraiment l'année 1985. C'est une année charnière pour la pop culture, mais aussi pour le rock. Et donc ce film qui a bouleversé, qui a marqué beaucoup de jeunes, dont j'en fais partie.
Idem.
Voilà, c'est Back to the Future et sa bande son moitié 50s, moitié 80s, qui est devenu un véritable voyage sonore.
Oui, effectivement, ce film c'est un choc, hein, de choc de génération. Le rock de 1955 qui rencontre celui de 1985, et c'est sans doute l'une des premières fois qu'un blockbuster hollywoodien va placer la musique au centre du scénario comme véritable moteur dramatique. Le rock n'est pas ici qu'un décor derrière fond, c'est un véritable flux temporel qui relie ensemble les personnages.
Voilà, donc flux temporel. Et alors, dès l'écriture du scénario, Bob Gale et Robert Zemeckis savaient qu'ils voulaient un héros musicien, un ado avec une guitare électrique, un peu maladroit, mais avec une énergie à la Chuck Berry. L'idée, c'est de montrer comment la musique pouvait devenir un langage universel et un lien entre les générations.
Exactement, et quand Universal a accepté de produire le film, ça a pris du temps, Zemeckis va se tourner vers un véritable vétéran du son pour travailler sur cette bande originale. Et ce monsieur, c'est Bones Howe. Hein. C'est un homme qui a bossé avec The Mamas and Papas, Elvis Presley. C'est notamment lui qui a mis en place la partie musicale du fameux Elvis Comeback Special de 68, donc c'est pas rien. Ou encore quelqu'un qui a travaillé avec donc Tom Waits. Donc Bones Howe, c'est un véritable artisan du son analogique, un producteur ingénieur à l'ancienne, qui va comprendre aussi bien le travail des micros que la mise en scène. Et j'avais interviewé il y a quelques années, et ce type est d'une humilité incroyable, alors qu'il a un CV qui donne complètement le tournis.
Et c'est lui qui a été chargé de la source musique, des titres que le personnage entend ou encore joue à l'image. Alan Silvestri, lui, compose la partie orchestrale, donc le grand thème épique. Et puis alors, on va revenir ici sur une scène marquante du film, c'est celle du bal.
Ben oui, c'est là que tout se joue hein, dans l'histoire. On est en 1955, donc Marty est retourné dans le temps. Et c'est un moment particulièrement tendu du film. Marty doit s'assurer que ses parents tombent amoureux pour que lui-même existe, en fait. Comme ses parents ne sont pas très rapides, il commence à disparaître partiellement. Je pense que ça a marqué pas mal d'entre nous. Hein. Cette scène est un peu stressante.
Ouais.
Heureusement, le baiser tant attendu finit par arriver. Et tout ça se déroule sur le fameux Earth Angel, le classique des Penguins, qui était originellement sorti en 1954.
Voilà, et c'est un des morceaux d'émotion pure, hein, vous venez de le dire, dans le film qui est interprété par Marvin Berry and the Starlighters, qui est donc le cousin fictif de Chuck Berry, mais en réalité, c'est l'acteur-chanteur Harry Waters Jr. qui chante et qui est dirigé par Bones Howe. Et le défi est de taille, hein, parce qu'en 1985, il faut recréer le son d'un enregistrement 30 ans plus ancien. Howe veut que tout sonne comme un vieux 45 tours mono, un peu sale, un peu chaud, avec ce grain typique des sessions Chess Records de Chicago.
Mais oui, Howe réunit autour de Waters Jr. un petit combo de musiciens qu'il a choisi, tous des musiciens originaires de Los Angeles, qui vont enregistrer à l'ancienne sur des bandes analogiques, là où on commence déjà en 85 à travailler en digital. Eux préfèrent faire ça à l'ancienne, et ils vont garder volontairement quelques imperfections dans l'enregistrement afin que tout sonne vrai. C'est-à-dire que en 55, évidemment, dans la scène du film, c'est un bal de lycée, c'est pas vraiment un studio de luxe, donc il faut que ça sonne un petit peu live, qu'on sente la sueur et les câbles qui sont un petit peu en train de traîner partout.
Ouais, effectivement, et le résultat, eh ben cette version de Earth Angel, à la fois fragile et magique, le moment où George McFly donc embrasse Lauren Baines et la musique littéralement répare le futur.
Just a fool.
Marvin Berry and the Starlighters, donc évidemment, on le rappelle, c'est Harry Waters Jr. donc qui est là derrière aussi, et le cousin fictif de Chuck Berry avec ce Earth Angel. Et alors, bon, on est le 26 octobre, c'est précisément le 26 octobre à 1h35 du matin que Marty McFly, en essayant de d'échapper aux terroristes libyens, se retrouve en 1955, et la guitare sur laquelle il joue, cette fameuse guitare rouge, est un anachronisme, parce que le modèle est une Gibson ES-345, c'est un modèle qui n'a pas été produit ni commercialisé avant 1959.
Ah oui, 4 ans d'écart.
Voilà, il y a déjà bon, un petit truc, mais malgré tout, ça reste quand même un petit coup de cœur pour beaucoup de personnes qui ont vu ce film, à tel point que Gibson, mais vous l'avez peut-être vu ou entendu dans le journal du rock, vient de sortir 88 modèles, donc pour le 88 miles à l'heure, de cette guitare, reproduite visiblement fidèlement, mais là je mets quand même un mais, parce que la véritable guitare qui a servi dans le film avait été louée par la production chez Norman's Rare Guitar à Los Angeles, et depuis cette guitare a été vendue, elle était revenue chez Norman's, puis a été revendue, elle serait peut-être au Japon, mais toujours est-il qu'elle a complètement disparu, et il y a quelqu'un qui s'appelle Doc, ça ne s'invente pas, Doc Croster, quelque chose comme ça, enfin, je ne suis pas sûr du nom, c'est à vérifier, mais qui est à la recherche de cette guitare depuis pas mal d'années, et qui pense même, enfin, il est en train aussi de réaliser un film autour de cette guitare. Donc oui, c'est voilà. Un gars un peu fêlé, hein, faut quand même l'avouer. Mais en tout cas, si le cœur vous en dit, il y a 88 modèles, ce sont donc c'est une édition limitée. Il faut quand même débourser la modique somme de 20 000 euros.
Ah oui, quand même.
Ça fait un petit peu sérieux, mal au portefeuille. Oui. Mais pour les bourses les plus plates, on va dire, il y a quand même Epiphone, hein, donc qui est la sous-marque de Gibson, qui a sorti ce même modèle aussi, à raison de 1985 exemplaires. Donc là encore, c'est une édition limitée, mais là c'est pour 1000 euros, donc c'est déjà quand même un peu plus accessible. Il y a encore pas mal de choses à dire, hein, sur les guitares. Bon, enfin bref, ici après cette scène de bal que nous avons évoquée juste avant, le futur est donc réparé, le public réclame une dernière chanson, Marty lâche les chevaux, j'ai envie de dire, les premières notes de Johnny B. Goode dans une version explosive. Et là encore, c'est une scène véritablement mythique. Hein.
Ah oui, Michael G. Fox va mimer la guitare à la perfection, mais voilà, derrière lui, ce sont de véritables musiciens qui jouent. À la guitare, c'est Tim May, hein, un véritable pro des studios californiens. À la voix, donc, ce n'est pas Michael G. Fox qui chante, mais bien un certain Mark Campbell, qui est originaire du groupe Jack Mack and Earth Attack. Campbell, qui a d'ailleurs été choisi par Bones O, dont on a parlé depuis le début, pour sa capacité à retrouver finalement l'énergie brute de Chuck Berry, mais sans tomber dans le copier-coller et dans la caricature. C'est-à-dire qu'il n'imite pas Chuck Berry, mais il est dans le ton.
D'accord. Et c'est vrai que la voix colle parfaitement au personnage de Marty McFly. Et en studio, Bones Howe veille à chaque détail. Donc il a voulu que le jeu de Marty McFly colle à la seconde près. Chaque note, chaque glissement de main correspond à l'image.
Mais oui, et aussi, à souligner, dans le chef de Bones Howe, eh bien, il va avoir un geste très élégant, parce que il faut savoir que tous ces musiciens qui jouent un petit peu dans l'ombre, parce qu'on ne les voit pas, Campbell, au départ, ne devait pas être crédité au générique, puisque voilà, il était juste là comme musicien d'accompagnement sans apparaître dans le film. Mmh. Et de cette façon, comme il n'apparaît pas dans le générique, eh bien Bones Howe va lui négocier un pourcentage sur les ventes de la bande originale, ce qui est assez sympa comme ça, parce que sinon il aurait eu juste le cachet de jouer une fois en studio et puis c'était fini. Heureusement, là il a réussi à avoir des pourcentages sur les ventes de la BO, et donc c'est un petit acte finalement de justice rock'n'roll, et c'est plutôt rare dans le milieu des requins d'Hollywood. Hein.
Ouais, ça a le mérite d'être souligné. C'est véritablement très très élégant. Alors cette scène, Laurent, c'est tout le rock'n'roll. Hein. Il y a l'audace, l'improvisation, la liberté. Et comme Marty s'emballe et part en tapping à la Van Halen, en feedback et en acrobatie à la Hendrix, le public reste bouche bée. Vous n'êtes pas encore prêt pour ça, mais vos gosses vont certainement adorer.
On se rappelle, hein, de cette réplique qui résume bien l'ensemble de la philosophie du film. Le rock est là pour relier les époques et relier les générations.
Et alors, on cite Van Halen. Van Halen n'est pas dans le film, mais on entend quand même aussi la musique de Van Halen, notamment lorsqu'il va voir son papa pour essayer de lui donner un petit choc électrique pour qu'il aille donc inviter Lorraine, et où il se fait passer pour Darth Vader et il lui met dans les oreilles pour le réveiller
un bon coup de guitare.
Un bon coup de guitare à la Van Halen. Et j'ai retrouvé ce son, je l'ai isolé et je vous propose d'écouter ça. C'est moins d'une minute, 55 secondes de Van Halen qui avait en fait enregistré ça pour un film aussi, mais un film qui était sorti l'année précédente en 1984 et qui s'appelle The White Life. Et cette petite bribe, ces quelques notes en fait ont eu le nom de Out the Window.
D'accord.
Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Alors pour relier 1955 à 1985, il fallait un groupe en pleine ascension, et c'est Huey Lewis and the News.
Bah oui, Universal voulait une chanson qui était contemporaine, hein, qui était capable d'ouvrir le film avec énergie. Et puis en fait au départ Huey Lewis va plutôt hésiter à la proposition de Zemeckis. Il dit écoute, je ne sais pas écrire une chanson sur les voyages dans le temps, et Zemeckis va lui répondre, on ne veut pas une chanson sur le temps, on veut une chanson qui parle de toi en fait. Et donc c'est ainsi que va naître The Power of Love, une chanson sur la confiance, l'élan, l'énergie originelle de l'amour. Et ce sont des thèmes qui vont coller parfaitement à cette histoire d'amour adolescente entre Marty et Jennifer. Et clin d'œil un petit peu ironique, eh bien c'est Huey Lewis qui va aussi, on l'entend dans la bande originale, mais il joue aussi dans le film. Alors il joue un rôle très très court, mais vous rappelez peut-être de ce prof de musique qui à un moment va complètement remballer le groupe de Marty en disant que c'est assourdissant, que ça joue trop fort.
Absolument.
Et bien c'est Huey Lewis qui est dans le jury des profs. Donc voilà, ça c'est marrant pour l'anecdote.
Et c'est vrai qu'ils y ont été forts, hein, avec les cheveux plaqués sur le côté, les lunettes extra larges.
Oui, il n'est pas très rock'n'roll comme ça.
Non, effectivement. Allez, on écoute ce Power of Love. évidemment, ben voilà, ça c'est c'est tout l'esprit du film, encore une fois, dans cette chanson, ce morceau que Marty joue aussi avec son groupe. Vous savez comment s'appelle le groupe ?
Je ne me rappelle plus.
Eh bien, c'est les Petites Têtes. Et on a du mal à comprendre, en fait, ce qu'il dit, parce qu'ils ont mis de l'écho sur la voix pour simuler l'écho de la salle, si vous voulez. Et on a l'impression que c'est les Triplettes, etc. Mais non, ce sont les Petites Têtes. Voilà, donc c'était juste pour ajouter. Alors, après avoir vu le film dans une version quasi terminée, Huey Lewis écrit Back in Time, avec lequel on a ouvert tout à l'heure. Et évidemment, ça se retrouve, là, c'est plutôt le générique final du film.
Bah oui, en fait, Back in Time, c'est qu'on écoutait au début de l'émission, comme vous venez de le dire, c'est un résumé de toute l'histoire du film. Donc c'est pour ça que, pour Huey Lewis, il aura besoin de voir le film pratiquement terminé pour pouvoir en faire un résumé. 4 minutes pour rejouer cette aventure. Alors, vu le succès incroyable de Retour vers le futur il y a 40 ans, eh bien, les deux morceaux de Huey Lewis qui en sont extraits, Back in Time et The Power of Love, deviennent des hits planétaire, on s'en doute. Et ce qui est remarquable, c'est que, ce monsieur un peu de l'ombre qu'on a évoqué pendant toutes ces séquences, Bones Howe, eh bien, il va veiller à la bonne intégration sonore de tout ça. Il va équilibrer les niveaux, la dynamique, la couleur des guitares pour que, finalement, cette transition entre les années 50 et les années 80 soit la plus fluide possible. Même dans le mix final, rien n'est laissé au hasard. Et c'est vrai que c'est pas simple, en fait, de jongler comme ça sur une bande originale avec des sonorités qui sont très différentes.
Absolument, oui. Et au final, ce film Back to the Future réunit deux mondes, donc le rock originel, celui des pionniers, et puis le rock moderne des années Reagan avec les synthés, etc. Mais tous deux parlent finalement le même langage, hein, c'est celui du rythme, du risque et de la liberté.
Et oui, et finalement, ce personnage qu'on a évoqué, Bones Howe, dans cette histoire, c'est un petit peu le Doc Brown du son, hein. Un savant fou de la musique qui aligne un peu les circuits, fait tourner les bandes et s'assure que chaque saut dans le temps reste cohérent musicalement. Et donc c'est vrai que ce film a marqué les esprits parce que l'histoire est géniale, parce que le jeu d'acteur est très réussi, mais c'est vrai qu'il ne serait pas aussi bien sans cette musique rock, donc très très bien sélectionnée par Bones Howe et mise en place aussi. Et puis Alan Silvestri, évidemment, lui va composer ses thèmes héroïques à Londres, et ça c'est marrant parce qu'il y a vraiment finalement deux facettes, hein. Londres pour l'aspect, on va dire, classique, et Los Angeles pour l'aspect rock'n'roll dirigé par notre ami Bones Howe.
Oui, et puis cette aventure musicale qui va encore se poursuivre avec les épisodes suivants.
Absolument.
C'est que ZZ Top a aussi fait partie de la bande originale avec 3, ouais. Double Back Again, où justement ils ont fait des arrangements, donc version un peu musique irlandaise.
Oui, c'est ça pour coller à l'ambiance générale.
Voilà. Bref, donc écoutez, c'est un véritable plaisir de reparler de tout ça ce matin, et on ne peut pas faire autrement que de refermer cette émission avec la version Marty McFly de Johnny B. Goode.
On a les images qui défilent devant nous là.
Voilà, effectivement, ce bon vieux rock bien rétro. Et puis tant qu'on y est, n'oubliez pas de sauver l'horloge de l'hôtel de ville.
Ah, ça c'est important.
Allez, bon dimanche.
Bon dimanche.
Classique 21, Soundtrack. Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write.
Johnny Bigood, hein. C'est comme si on était à la faillerie dans le centre des sardines. Non, des sirènes. Donc, Marty McFly avec The Starlighters, ça c'est dans le film, mais sinon c'est Tim May, hein, comme on vous l'expliquait, qui a joué ce morceau. Tim May qu'on retrouve aussi dans des tas d'autres choses qu'on a tous vues à la télévision. Si vous vous rappelez par exemple de la série Sheriff Fais-moi peur, la guitare country qu'on entend là derrière, eh ben c'est Tim May. Et puis dans les années 90, c'était ça aussi. Le générique de Beverly Hills, donc la guitare que vous entendez, ben, c'est également Tim May. Alors, il n'a pas joué sur une S-345 comme on le voit dans le film, il a joué sur une guitare de marque Valley Heart. C'est des guitares de luthier et c'est les mêmes modèles, en tout cas, qu'utilisait par exemple Steve Lukather au tout début de sa carrière. Et je suis retombé sur une vidéo où on voit Tim May, donc avec, il montre cette fameuse guitare et il rejoue la partie de Johnny B. Goode. Je vais vous poster ça sur Facebook d'ici quelques instants. Vous allez voir, on y retrouve, mais véritablement le son hein, qu'on pouvait entendre.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.